En faisant ce repérage, vous voyez bien que je ne définis pas, ou en tout cas je ne définis pas premièrement, essentiellement, des types sociaux historiquement distincts. Je ne veux pas dire qu'il y avait quatre professions ou quatre types sociaux dans la civilisation antique, le prophète, le sage, le professeur, le parésiaste. Certes, il arrive qu'on puisse isoler ces types sociaux assez nettement. Autrement dit, il peut arriver que ces quatre grandes modalités du dire vrai, le prophétique, le sage, enfin le dire vrai prophétique, le dire vrai sage, le dire vrai technicien et le dire vrai éthique ou parésiastique, il arrive que ces quatre modes de dire vrai correspondent soit à des institutions, soit à des pratiques, soit à des personnages que l'on peut assez bien distinguer. Et je crois, c'est une des raisons pour laquelle l'exemple de l'Antiquité est privilégié, c'est qu'il permet justement de débroussailler en quelque sorte ces différentes formes de dire vrai, ces différents modes de véridiction, parce que dans l'Antiquité, on les trouve assez bien distingués et incarnés, mis en forme, presque institutionnalisés, dans des formes différentes. Vous avez la fonction prophétique qui était définie et institutionnalisée assez nettement. Le personnage du sage était lui aussi assez bien isolé. Vous voyez le portrait d'Héraclite. Le professeur, le technicien, l'homme de la techné, vous le voyez apparaître très nettement dans les dialogues socratiques. Et les sophistes étaient précisément ces espèces de techniciens et professeurs à fonction qui se voulait une fonction universelle. Quant au parésiaste, eh bien, le parésiaste, il apparaît d'une façon très nette avec son profil propre. Nous y reviendrons la prochaine fois avec Socrate et ensuite avec Diogène et toute une série de philosophes. Mais aussi distinct que soient ces rôles, et même s'il est vrai qu'à certains moments, dans certaines sociétés ou dans certaines civilisations, vous voyez ces quatre fonctions prises en charge en quelque sorte par des institutions ou des personnages très nettement différents, il faut bien remarquer que ce ne sont pas fondamentalement des personnages ou des rôles sociaux. Je tiens à cela, je voudrais y insister, ce sont essentiellement des modes de véridiction, et il arrive, et il arrivera très souvent, et il arrivera plus souvent encore que l'inverse, que ces modes de véridiction soient combinés les uns avec les autres et qu'on les retrouve dans des formes de discours, dans des types institutionnels, dans des personnages sociaux qui les mêlent les uns les unes, ces modes de véridiction qui les mêlent les uns avec les autres. Déjà, regardez avec Socrate, vous voyez comment on retrouve des éléments, Socrate compose des éléments qui sont de l'ordre de la prophétie, qui sont de l'ordre de la sagesse, qui sont de l'ordre de l'enseignement et qui sont de l'ordre de la parésia. Socrate, c'est donc le parésiaste, mais vous vous souvenez qu'il a reçu sa fonction de parésiaste, il a reçu la mission d'aller interpeller les gens, les tirer par la manche et leur dire « occupe-toi un peu de toi-même ». Il a reçu cette mission de qui ? Eh bien, du dieu de Delphes et de l'instance prophétique qui a rendu, vous le savez, ce verdict quand on est venu lui demander quel est le plus sage des hommes de la Grèce et qu'il a répondu, quel est le plus savant des hommes de la Grèce, pardon, et qu'il a répondu, c'est Socrate. Et c'est pour honorer cette prophétie, c'est pour honorer aussi le dieu de Delphes posant le principe « connais-toi sur toi-même » que Socrate a commencé sa mission. Donc sa fonction de parésiaste n'est pas sans quelque rapport avec cette fonction prophétique dont il se distingue pourtant. Également, Socrate a des relations avec la sagesse, tout parésiaste qu'il soit, et cette relation avec la sagesse, elle est marquée évidemment par plusieurs traits qui concernent sa vertu personnelle, sa maîtrise de soi, son abstention à l'égard de tous les plaisirs, son endurance devant toute souffrance, sa capacité à s'abstraire du monde. Souvenez-vous la scène fameuse de Socrate devenu insensible et ne percevant pas, restant immobile et ne percevant pas le froid pendant qu'il était soldat et qu'il faisait la guerre. Bon, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a chez Socrate ce trait, en un sens plus important encore, de sagesse, qui est malgré tout un certain silence, car Socrate ne parle pas, il ne tient pas de discours, il ne dit pas. spontanément ce qu'il sait. Au contraire, il s'affirme comme étant celui qui ne sait pas et qui, ne sachant pas, et sachant simplement qu'il ne sait pas, eh bien, va se tenir dans la réserve et dans le silence, se contentant d'interroger. L'interrogation est bien une certaine manière, si vous voulez, de composer avec le devoir de parésia, c'est-à-dire le devoir d'interpeller et de parler, la réserve essentielle au sage qui, lui, se tait. Seulement le sage se tait parce qu'il sait et qu'il a le droit de ne pas dire son savoir, alors que Socrate va se taire en disant qu'il ne sait pas et en allant interroger tout le monde et n'importe qui à la manière du parésias. Donc vous voyez là encore, les traits parésiastiques se combinent avec les traits de sagesse. Et enfin, bien sûr, relation avec le technicien, avec l'enseignant, le problème socratique, c'est bien comment enseigner la vertu et comment donner aux jeunes gens les qualités et les connaissances qui sont nécessaires, que ce soit pour bien vivre, que ce soit aussi pour gouverner comme il faut la cité. Socrate, c'est le parésiaste, mais encore une fois, en relation permanente, essentielle, avec la fonction, la véridiction prophétique, la véridiction de sagesse et la véridiction technicienne de l'enseignement. Je crois qu'il pourrait être intéressant de chercher comment ces quatre modalités, qui encore une fois ne s'identifient pas une fois pour toutes à des rôles ou à des personnages, comment elles ont pu se combiner et comment elles se combinent dans les différentes cultures, sociétés ou civilisations, dans les différents modes de discursivité, dans ce qu'on pourrait appeler les différents régimes de vérité que l'on peut retrouver dans différentes sociétés. Il me semble, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de vous montrer, même schématiquement, que dans la culture grecque, à la fin du 5e, début du 4e siècle, on peut repérer, bien réparti en une sorte de rectangle, ces quatre grands modes de véridiction, celui du prophète et du destin, celui de la sagesse et de l'être, celui de la techné et celui de l'enseignement et de la techné, et celui de la parésia avec l'éthos. Mais si ces quatre modalités sont ainsi assez bien déchiffrables, séparables et séparées les unes des autres à cette époque, je crois que c'est un des traits de l'histoire de la philosophie antique, un des traits sans doute aussi de la culture antique en général, que entre le second et le quatrième, je veux dire, entre le mode de dire vrai caractéristique de la sagesse et le mode de dire vrai caractéristique de la parésia, eh bien, il y a une tendance à se rejoindre, à se joindre, à se lier l'un à l'autre en une sorte de modalité philosophique du dire vrai, très différent d'une part du dire vrai prophétique, différent aussi de cet enseignement des technés dont la rhétorique sera par exemple un des exemples, et puis on verra s'isoler, se former en tout cas, un dire vrai philosophique et qui prétendra, avec de plus en plus d'insistance, ne pas tellement chercher à dire l'être ou la nature des choses, ou en tout cas à ne dire l'être et la nature des choses que dans la mesure où ce dire vrai sur l'être et la nature des choses pourront concerner, pourront être pertinents, pourront articuler et fonder un dire vrai sur l'éthos dans la forme de la parésia. Et dans cette mesure-là, on peut dire que sagesse et parésia vont jusqu'à un certain point seulement, bien sûr, se confondre. En tout cas, ils vont être comme attirés l'un vers l'autre. Il va y avoir comme un phénomène de gravitation de la sagesse et de la parésia, gravitation qui va se manifester dans ces fameux personnages de philosophes disant la vérité des choses, mais disant surtout leur vérité aux hommes tout au long de la culture hellénistique et romaine ou gréco-romaine.